Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Il est 23h39 sur Europe. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la libre antenne. Nous sommes ensemble depuis 39 minutes, mais vous pouvez nous appeler puisque nous avons encore jusqu'à 1h du matin, chers amis. Donc le temps d'échanger ensemble. Pour le moment, nous accueillons Magali au 3921. Bonsoir Magali.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Magali?
Alors, je vous appelle du Tarn.
Du Tarn. Et quel âge avez-vous?
J'ai 48 ans.
48 ans, d'accord.
Enfin, en théorie.
D'accord. Pourquoi en théorie?
Tiens. Après l'âge, c'est dans la tête.
D'accord, très bien. Oui, alors dans la tête, vous n'avez pas 48 ans?
Oh non, pas du tout.
Quel âge?
Ah, je ne sais pas, bien moins.
Bien moins.
Ouais, ouais.
Bon, un petit 28, 20, 27, 28?
Je ne sais pas. Mais je ne sais pas, les gens en réalité me donnent toujours... environ 10 ans de moins quand ils me voient.
Bon, donc bah c'est très bien.
En règle générale, mais tant mieux, oui.
Très bien. De quoi allez-vous nous parler, Magali?
Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler des placements abusifs.
Oui.
Qui existent dans notre pays, entre autres. Et c'est un vrai problème dont les gens ne semblent pas être au fait, en fait.
Que vous est-il arrivé?
Alors, c'est un placement abusif comme il y en a tant d'autres. Hein, voilà. Chaque histoire est particulière. Alors, mon histoire, je vais essayer de vous la résumer. J'étais une maman solo à la base,
oui.
Arrivée à 38 ans. En fait, il y avait l'horloge biologique qui tournait. Je n'avais pas trouvé le compagnon idéal, en fait, pour faire ma vie,
oui.
Ni pour avoir mes enfants. Donc, en fait, vous êtes face à un choix à ce moment-là. Vous êtes face au choix de ne jamais avoir d'enfants dans votre vie, ou bien face au choix d'avoir des enfants, mais de se dire que peut-être le papa, c'est-à-dire... pour moi, à mes yeux, c'est celui qui élève et donne de l'amour à un enfant, en fait. Hein.
Mmh.
Eh bien, ce papa, je pourrais toujours le trouver par la suite.
D'accord.
Voilà. En revanche, les enfants, c'est pas pareil.
Comment faire des enfants à partir de cette réflexion-là?
Alors, à partir de cette réflexion-là, Olivier, à 38 ans... J'ai découvert aussi que j'étais stérile, c'est-à-dire que j'étais en ménopause précoce, donc auprès de mon gynécologue qui m'a fait des tests.
Mmh.
Et c'est ce qui m'a donné finalement l'envie de sauter le pas et de me dire que de toute manière, il fallait que je m'oriente vers une prise en charge médicale pour avoir mes enfants, en fait.
D'accord.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un traitement par FIV à l'étranger, puisqu'en France, c'est interdit pour femmes seules. Je suis donc allée faire un traitement FIV en Espagne en 2012.
D'accord. Ça s'est bien passé?
Alors, ça s'est bien passé, oui, très très bien, dans la mesure où, effectivement, contrairement à la France, en tout cas en 2012, c'était le pays choisi par beaucoup de femmes, dans mon cas, pour avoir enfin un enfant, en fait. Et ça s'est bien passé parce qu'en fait, alors, il faut déjà que je vous dise qu'il a fallu qu'il trouve deux donneurs. Deux donneurs, pourquoi? Parce que moi, j'étais en ménopause précoce,
oui.
Depuis l'âge environ de 35 ans. Donc, je n'avais plus aucun de follicules. Donc, ils ont trouvé une donneuse qu'ils ont choisie sur des critères physiques, des critères qui me ressemblaient physiquement. Et ensuite, il a fallu trouver un donneur Et moi, j'ai demandé que ce donneur puisse être le même pour tous mes enfants.
D'accord.
Puisque je comptais bien avoir plus qu'un enfant, en fait. Voilà. Je ne voulais pas d'enfant unique.
Vous entendez par là que vous vouliez des jumeaux ou vous vouliez plusieurs enfants, trois, quatre enfants?
Alors, puisque vous m'en parlez, mon rêve, c'était d'avoir des jumeaux. Mais après, quand on est stérile, en ménopause précoce, et qu'on ne peut pas avoir d'enfants, on ne demande pas non plus la lune. Et mon rêve, c'était tout simplement d'avoir deux enfants. Enfin, c'est comme ça que je voyais les choses à l'époque. C'était deux enfants. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est très très bien déroulé. Ils ont trouvé une donneuse. Ils m'ont ponctionné les ovocytes. Ils m'ont appelé dans la foulée pour me dire qu'ils pouvaient transférer deux embryons frais de cette donneuse qui avait des correspondances physiques proches des miennes. Mmh. Et donc, en une demi-heure, c'était réglé, en fait. Vous allez là-bas, ils vous transfèrent les deux embryons qui étaient frais, hein, je précise. Voilà. Et puis ensuite, vous faites la prise. Ça dure une demi-heure. Vous rentrez chez vous et vous faites la prise de sang quelques jours après. Et c'est avéré, en fait, que c'était... les deux avaient pris, en fait.
D'accord. Donc les deux avaient pris, ça veut dire que vous avez eu des jumeaux au début ?
Oui, deux jumeaux.
D'accord.
Deux jumeaux. C'était vraiment un rêve qui se réalisait pour moi. Mm-hmm. Bon, non seulement mon premier rêve, c'était d'avoir au moins un enfant d'abord, et puis mon rêve de toujours, effectivement, c'était d'avoir des jumeaux. Ça se réalisait enfin. Ça a été un grand, grand bonheur.
Et après, vous avez recommencé quelques mois plus tard, ou un an ou deux ans plus tard?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, mes fils sont nés le 22 juillet 2013. Mm-hmm. Donc, j'ai eu le bonheur d'être maman pour la première fois. Et c'était des faux jumeaux, comme on dit, en fait, entre guillemets, deux poches de placenta. Avec deux poches de placenta, voilà. Alors, un mois en avance, hein, effectivement, parce que souvent, les grosses sèches géminaires, bien, en fait, souvent, le gynécologue préfère les faire sortir avant, en fait, tout simplement, pour éviter les risques. Alors, okay. Notamment, qu'il y en avait un qui ne bougeait plus dans le ventre. Donc, en fait, c'est pour ça que l'accouchement en césarienne a été, encouragé, provoqué en semi-urgence.
D'accord. Vous savez, en fait, je pense, Magali, que comme on va parler de placement abusif, on va passer un peu plus sur les détails de la venue au monde de vos enfants. Oui. Je pense que ce qui est important, c'est l'arrivée de votre dernier enfant, hein, qui va...
Oui, c'est ça.
Qui, dans votre histoire... va nous intéresse ce soir. En fait, donc, les deux premiers des jumeaux.
Oui.
Le troisième enfant, fille ou garçon?
Alors, une petite fille qui arrive le 3 mars 2016. Voilà.
D'accord.
Une petite fille très facile, vraiment encore plus facile à gérer que ses grands frères jumeaux. Hein. Donc là, c'est le bonheur qui est son summum. Et puis je me dis, allez, une dernière, hein, la petite sœur. Et puis voilà, en fait, et après, à l'origine, je pensais en avoir deux. Et puis en fait, au final, je me dis, allez, la quatrième, la dernière. Voilà. Et puis ce qui va se passer, c'est que c'est là que tout va basculer, en fait. Hein. C'est là que tout va basculer.
Comment ça se passe justement l'arrivée de cette petite fille? Parce qu'avec trois enfants déjà, maman solo, c'est du boulot, je suppose, quand même.
Alors, c'est du travail, oui, mais étant donné que je suis quelqu'un qui était très, très, très motivé pour les avoir, que mon choix était vraiment mûri et que et que bah, j'étais prête à, finalement à passer cette grossesse. Alors, une grossesse, moi, c'est pas pour moi. Désolée pour les femmes qui adorent ça, mais moi, c'est pas mon truc. J'ai été malade à chaque grossesse, comme c'est pas possible. Mais je suis prête, en fait, dans ce moment-là, à passer par... rien n'est grave. Le tout, c'est d'avoir un enfant. C'est ça que je veux dire. Donc, j'arrive à gérer très bien mes trois enfants en bas âge. Les jumeaux, quelque part, m'ont préparé un peu à ça, parce qu'il y avait effectivement le double travail. 74 couches le premier mois, on récure, on jette, c'est vraiment ça. Et donc, j'arrive avec cette petite fille, finalement, elle est toute seule, et ses frères sont très contents de l'accueillir. Donc, tout se passe pour le mieux, en fait, avec ces trois enfants en bas âge. Même si c'est du travail, voilà. Mmh. Et donc...
c'est en 2018, visiblement, que les choses vont se compliquer.
Oui, c'est ça, exactement. C'est donc avec cette petite quatrième qui arrive le 3 juillet 2019 que tout bascule, en fait, notre vie va basculer. Les frères et sœurs et moi-même, on est vraiment aux anges de l'accueillir, c'est cette petite dernière. Et arrivée pourtant à ses 5 mois, elle ne fait toujours pas ses nuits et elle ne fait qu'un quart d'heure de sieste la journée. Et ça c'est, pour moi, c'est la claque. Autant j'ai une force, comment dire, psychique, autant c'est vrai que une fois minimum de sommeil, quoi. Et là, je prends une sacrée claque, en fait, parce que un bébé qui ne dort qu'un quart d'heure de sieste la journée, ben, en fait, je n'ai jamais connu ça. Les trois aînés étant finalement des enfants, mais très très faciles, en fait, qui dormaient à 3 mois. Donc, ce qui se passe, c'est que la crèche va me la prendre une à deux fois par semaine. Mon manque de sommeil s'accumule et je tombe en épuisement maternel. Comme d'autres mamans le sont en France et au monde, hein, on est bien d'accord. Mmh. Un jour, j'arrive à la crèche et puis je me confie à la crèche et je dis je n'en peux plus, quoi. Je suis vraiment en épuisement, j'ai besoin de dormir,
oui,
en fait.
Débordée.
Fatiguée, c'est ça, c'est fatiguée, parce que débordée, c'est du travail, on va pas se leurrer, on va pas se mentir. Mais moi, je suis tellement prête à tout pour mes enfants qu'il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci, au contraire, d'enfant en enfant, en fait, je m'aperçois que je m'organise de mieux en mieux. Moi qui n'étais pas du tout quelqu'un d'organisé à la base, ben, en fait, je m'organise de mieux en mieux. Et donc, j'arrive à la crèche, je me confie. Et je dis, bah là, je suis vraiment épuisée. J'étais tellement épuisée que j'étais dans un état second. Et la crèche me propose de téléphoner à une assistance sociale.
Oui.
Parce que, évidemment, je n'ai pas de famille du tout. Et que même si j'ai fait appel à une association de parrainage pour donner des liens un petit peu familiaux à mes enfants, eh bien, malheureusement, les parrains de l'époque ne sont pas en mesure de prendre ma petite à ce moment-là. Voilà. Donc, une entente est conclue avec l'assistante sociale pour faire un break nécessaire avec mon bébé. Mmh. Parce qu'en fait, vous savez bien, Olivier, que quand une maman est fatiguée, c'est un peu les vases communicants, plus la maman est fatiguée, plus le bébé pleure et réclame sa maman. Et enfin bon, et voilà, c'est à un moment donné, il faut casser un petit peu cette alliance qui fonctionne plus, en fait. Mmh. Et ce qui se passe, c'est que il y a un placement provisoire administratif qui est mis en place dans une famille d'accueil pendant 4 mois. Donc le temps que ma petite fasse ses nuits et moi que je récupère un peu mon sommeil. Et la PMI, qui m'a toujours suivie depuis l'apparition de mes jumeaux, étant seule, et puis voilà, pour la pesée des bébés, en fait, elle est venue toujours régulièrement, voilà, me suivre à la maison. Et là, elle me suggère, en fait, de faire un suivi psychologique avec ma dernière, afin de recréer des liens mère-enfant. Donc, j'accepte volontiers. Et les rendez-vous permettent de faire un travail positif et la psychologue va rendre des conclusions très très favorables en disant évolution spectaculaire du bébé, en lien actuellement avec sa mère, beau bébé épanoui, manipule les jouets, suit du regard, etc. etc., etc. Bref, un rendu très très favorable de la psychologue. Ensuite, ayant récupéré en fait tout mon manque de sommeil et ma fille faisant enfin ses nuits, et le suivi le psychologue entre elle et moi étant favorable, qu'est-ce que je fais ? Je remercie l'assistante sociale et la famille d'accueil pour leur aide. Et je décide de reprendre ma fille chez moi.
D'accord.
Alors nous sommes heureux avec les trois aînés d'intégrer à nouveau au quotidien de la famille. Et tout se passe très bien avec les enfants. Et entre eux, voilà, entre quatre. Les garçons, notamment, sont particulièrement protecteurs avec leur petite sœur. Et là, ce qui va se passer, c'est que, alors que tout va enfin très bien pour nous cinq, tout va basculer à ce moment-là, en fait. À ce moment-là, le chef de l'ASE me convoque pour un entretien. Il me dit qu'il veut judiciariser le placement de mon bébé. Je ne comprends absolument pas cette mesure, puisque ma petite va bien, on a fait un suivi psychologique, vous voyez, bon voilà, le rapport en témoigne. Je ne comprends pas pourquoi il veut judiciariser le placement de mon bébé. Quand je lui pose la question, d'ailleurs, il me donne aucune explication. Il me dit bébé tendu. Ben, j'ai beau lui dire que le bébé tendu, ça c'était tout au début, mais ça n'est plus un bébé tendu maintenant. Mais il ne veut rien entendre. Donc arrivé le 24 juillet 2019, trois semaines après le premier anniversaire de ma dernière, et après seulement deux jours les 6 ans de mes garçons, hein, puisqu'ils sont ma dernière c'est le 3 juillet et mes garçons le 22 juillet, deux jours après les 6 ans de mes garçons, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un coup de fil du chef de l'ASE. Et il me dit « Bonjour madame, la juge est d'accord, elle ordonne le placement judiciaire de votre bébé. » Et là, ça va pas du tout aller, quoi. Je peux pas accepter dans la mesure où je comprends pas ce placement, vous voyez.
Je comprends. Il est motivé par quoi cette décision est motivée, je suppose. En tout cas, j'entends par motivé. Il vous donne quoi comme explication exactement?
Eh bien, en fait, je vous dis, quand je demande le pourquoi, je dis pourquoi.
Oui.
Je ne comprends pas dans la mesure où moi, j'ai été volontaire pour la placer provisoirement, administrativement, pour faire un break avec elle, pour me requinquer, et voilà, pour la reprendre quand tout allait bien.
Oui, j'ai bien saisi, mais eux vous disent quoi?
Ben, ils me disent qu'ils ne comprennent pas. Ils me disent bébé tendu. Ils me disent rien d'autre en fait. Ils ne me disent rien d'autre.
Bébé tendu. Ça, bébé tendu.
Oui, bébé tendu. Bébé tendu en fait. Ah. Bébé tendu. Ils ne prennent pas en compte qu'il y a eu un rapport positif favorable du suivi psychologique entre mère et enfant. Et pour moi, c'est tout à fait injuste. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça me suffit pas. Ça me suffit pas. Et puis je trouve ça c'est injustifié. C'est pas normal. Dans ma tête, c'est pas normal. Ce placement ne doit pas avoir lieu.
Bébé tendu, c'est un peu court, si vous voulez.
C'est ça, on est d'accord. Hein. Bah, oui, on est d'accord.
J'entends par là que bébé tendu, vous voyez, bébé tendu, ils auraient pu vous dire, voilà, on a remarqué que cet enfant est tendu, donc bébé tendu, qu'elle crie, qu'elle a des gestes, je ne sais pas, qu'elle dort mal, que visiblement, ils ne vous ont donné que bébé tendu.
Bébé tendu qui a de l'eczéma.
Qui a de l'eczéma, d'accord.
Voilà.
Et on vous place, on vous refuse donc de reprendre votre fille pour ça.
C'est ça. Et là, je ne comprends pas du tout, quoi. Pour moi,
oui,
ça ne suffit pas.
J'entends, c'est très, très dur. Même si, encore une fois, hein, je mets un bémol à ce que je dis, sans doute, hein, les gens qui trouvent ce bébé tendu et qui a de l'eczéma sont-ils de bonne foi? Mais est-ce que cela nécessite de placer ce bébé? On va en parler juste après l'info qui arrive à grands pas sur Europe 1. Mais il est certain que pour vous, qui vous êtes porté à nu hein, devant ces gens, en disant que vous êtes fatigué, que vous étiez exténué et que vous ne vous sentiez pas d'assurer vraiment bien les choses, je trouve que vous avez fait preuve vraiment de responsabilité. Donc c'est ça qui est très étonnant, c'est que votre démarche aurait vraiment pu être encouragée, je trouve. Et au lieu de ça, après vous rentrez dans un engrenage et tout ça, il est normal que vous l'ayez vécu de manière injuste. On va continuer à en parler si vous voulez bien. On laisse passer l'info, d'accord ? À tout de suite. Minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Chers amis, vous pouvez, vous le savez, à tout moment, composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Et peut-être aurai-je le plaisir de vous entendre et de vous parler dans la soirée. Pour le moment, nous sommes avec Magali qui, après une demande d'aide pour surmenage, ses 4 enfants étant bien évidemment pour une maman solo, sans doute une charge conséquente. Après avoir demandé donc un placement administratif de votre petite dernière pour manque de sommeil et épuisement, après donc que cette petite ait été placée, que tout soit rentré dans l'ordre, vous nous expliquez, Magali, ce soir, qu'un placement administratif a été décidé à l'issue duquel vous n'avez pas pu récupérer votre fille. En tout cas, on voulait vous empêcher de récupérer votre fille pour un eczéma traduisant un bébé tendu. Nous étions, avant l'info, en train de nous dire que c'était peut-être un ressenti des services sociaux, mais qui, avec l'attitude que vous avez eue en étant une maman responsable, ne pouvait qu'être mal pris de votre part. C'est clair. Alors, comment avez-vous réagi à tout ça ?
Mais en fait, je voudrais déjà rectifier un petit quelque chose, Olivier. Alors oui, être maman solo avec des enfants, oui, c'est du travail, on va pas se leurrer. Mais après, je les ai voulus, c'était un choix. Et puis, je me suis quand même plutôt bien tirée des 3 premiers, en fait. Et ils étaient aussi assez faciles, on va pas non plus s'en cacher. Donc ça a facilité aussi leur gestion. Mais je tiens à dire que oui, c'est du travail, mais après, il n'y a jamais... Voilà, ça a toujours été avec les 3 premiers. Voilà. Là où ça a basculé, c'est l'épuisement avec ma petite dernière. Alors, c'est vrai qu'elle aurait été la première, ça n'aurait pas été pareil. Là, c'était la dernière, donc il y avait les 3 premiers à gérer avant. Donc, voilà. Alors du coup, je referme ma petite parenthèse. Du coup, pour répondre à votre question, effectivement, ils auraient pu voir ma position comme une sorte de responsabilité, hein, voilà. Et en fait, c'est pas du tout comme ça qu'ils l'ont vu. Donc, lors de l'audience pour le placement de ma dernière, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai posé la question à la juge. J'ai dit pourquoi ce placement de ma dernière, donné que tout est positif, c'est moi qui ai demandé à faire un break en toute responsabilité, voilà. Non. Elle m'a dit, écoutez. La juge m'a répondu, c'est une chose de demander de l'aide, mais c'en est une autre de l'arrêter.
D'accord.
Donc, moi, j'ai dit qu'une aide, logiquement, la définition d'une aide, on est d'accord, c'est on demande de l'aide, et puis le jour où on n'en a plus besoin, on remercie, et voilà. On est d'accord.
Oui, exactement. Enfin, on peut voir les choses comme ça. Après, vous savez que... le rôle du service social, des services sociaux plutôt, c'est de toujours appréhender une situation, l'évaluer et agir dans le bien pour le bien de l'enfant.
A priori pour le bien.
Oui, a priori pour le bien. Enfin, c'est la mission qui est la leur normalement.
A priori, et ça faut bien le souligner que c'est a priori, parce qu'il y a de nombreuses choses dont on peut parler et qui sont loin d'être dans le bien-être de l'enfant. Hein. Moi, je peux en parler, et d'autres mamans aussi peuvent en témoigner. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la juge m'a dit, elle n'était pas, finalement, ce qu'elle me reprochait, c'était d'avoir arrêté l'aide. L'aide, c'est-à-dire, mais non, mais Madame la juge, merci, mais je, voilà, moi, ce que j'avais besoin, c'est, j'avais besoin de dormir. Je suis, voilà, je suis maintenant en pleine forme et je suis contente de pouvoir vivre avec ma petite au quotidien, en fait.
Oui,
Mais
oui,
non,
oui.
non, 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 elle l'a pas entendu de cette oreille. Alors, il y avait aussi autre chose qu'elle me reprochait, c'était d'avoir arrêté la travailleuse familiale qui venait à mon domicile pour m'aider à ranger la maison. Voilà, parce qu'en fait, avec la naissance des jumeaux, évidemment, j'avais tout en double, j'avais énormément d'affaires, énormément de choses. Et puis, c'est vrai que comment dit-on, focalisée sur la gestion de mes jumeaux, et j'avais un peu délaissé la maison, un peu beaucoup, disons, hein, voilà. Pour être honnête, c'était ça. Et ce qui s'est passé, c'est que la travailleuse familiale qui m'ont envoyée chez moi, à un moment donné, après m'avoir rendu finalement beaucoup de services pour la maison, elle me dit un jour, vous savez, on place des enfants pour moins que ça. Et là, moi, j'ai senti qu'elle sortait complètement de son cadre, en fait.
Oui.
Vous voyez, parce qu'une travailleuse familiale, elle était a priori là pour m'aider à ranger la maison.
Oui,
hein,
oui.
Voilà. Et là, du jour au lendemain, elle me dit, vous savez, il y a des enfants qu'on place pour moins que ça. Et là, je l'ai regardée et je me suis dit, mais c'est quelque chose qui ne va pas. Et en fin de compte, je pense que ça voulait dire, je vais en parler, en fait. Et j'ai compris après coup que c'était elle qui m'avait balancé, en fait.
Ah, c'est elle qui vous a balancé.
Ah oui.
D'accord.
Ah oui. Ah oui. Et ce qui s'est passé, si vous voulez...
Parce que vous vous êtes séparée d'elle, vous pensez?
Ah oui, j'en suis persuadée.
Une petite vengeance personnelle, vous pensez?
Oh, mais carrément.
Oui,
carrément. Mais carrément, carrément ça, en fait. Carrément ça. Mm-hmm. Parce que mes enfants, le voyez, mes enfants, c'est vraiment des amours. C'est des enfants adorables. Je ne dis pas ça parce que je suis la maman, mais c'est aussi le ressenti des gens qui ont connu mes enfants, que ce soit à l'école, à la crèche. J'ai eu la chance et j'ai la chance d'avoir quatre enfants qui sont faciles. Il a géré, c'est des véritables amours, franchement, et je vous répète, c'est pas un avis, voilà, y a les gens qui les ont connus le disent aussi, hein. Et je pense qu'elle s'était quelque part accaparée, mes enfants, que, je sais pas, vous savez, c'est ce genre de personne qui estime que vous faites forcément moins bien qu'elle, vous voyez, c'est ce genre
ouais,
de personne.
Ouais, je vois.
Résultat des courses, dès lors qu'elle m'a dit cette réflexion, j'ai coupé court avec elle, j'ai dit je vous remercie, je ne veux plus de vos services. Et donc, c'est ce que m'a reproché la juge à l'audience. Elle m'a dit voilà, vous avez arrêté l'aide, voilà, notamment de cette travailleuse familiale et puis de ce placement provisoire. Et moi, j'étais pas d'accord. Enfin, elle ne pouvait pas non plus entendre le fait que je jette cette femme qui était sortie de son cadre, en fait.
Ouais, ouais,
voilà,
ouais.
Bon, bref. Mm-hmm. Donc, de là, ce qui se passe, Olivier, c'est que moi, je ne veux pas être d'accord avec ce placement. Hein. C'est simple. Moi, ça ne me va pas. C'est quelque chose qui ne tourne pas rond hein, dans leur tête. Hein. Donc, le chef de l'ASE va me téléphoner le 24 juillet 19 et il va me dire je viens la chercher. Je viens, j'arrive chez vous.
Oh là là.
Et là, pour moi, c'est la claque, c'est
ah
ça,
bah
c'est
ouais,
pas possible.
Vous m'étonnez. Hein.
Alors, il y a mes filles qui sont à la sieste, à l'étage. Et là, ça va très, très vite dans ma tête. Je dis à ce monsieur, je dis, mais en fait, je ne suis pas chez moi. Et il me dit, mais c'est pas grave, on va vous attendre. Mais avec un sourire sadique, mais je vous assure. Enfin, c'était un sourire qui n'a pas lieu d'être, quoi. Un sourire vraiment malveillant, quoi. Et là, j'ai raccroché, j'ai monté 4 à 4 les escaliers, j'ai embarqué mes deux filles dans mes bras. J'ai enfilé une robe pour chacune. J'ai même pas eu le temps de changer les couches. Je vous assure que là, ça va très vite, hein. Très, très, très vite. Vous pouvez pas vous dire je vais attendre tranquillement qu'ils arrivent chercher mon bébé. Non, c'est juste pas possible. Donc là, c'est direction les filles dans la voiture,
oui.
Dans leur siège auto. À ce moment-là, cet homme-là arrive comme dans un film, en roulant sur les cailloux de ma cour. C'est comme dans un film
sur les cailloux de votre cour, c'est-à-dire.
Ben, en fait, il va tellement vite pour arriver chez moi, il a tellement peur de me louper, en fait, qu'il va glisser sur les graviers de ma cour, en fait. Comme dans un film, en fait. Hein.
Mm-hmm.
Et en fait, ce que je vais m'apercevoir, c'est que son bureau, logiquement, il est situé à 20 minutes de chez moi. Et en fait, je me rends compte que quand j'ai raccroché, eh bien, en fait, il arrive en 5 minutes chez moi, même pas, en fait. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il était dans les environs du village. Ça signifie qu'il était caché, hein, entre guillemets, dans une rue avoisinante. Puisqu'il est venu en 5 minutes au lieu de 20 minutes, vous voyez.
Oui,
il avait donc anticipé.
Je vois parfaitement, oui. C'est quand même troublant l'attitude de cet homme. S'il vous attendait là, vraiment, c'est. S'il attendait dans le village, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas.
J'ai considéré ça comme une sorte de guet-apens. J'ai eu l'impression d'être, comment vous expliquer, j'ai eu l'impression qu'on me sautait dessus, que vous voyez, comme un animal qui était traqué, quoi. Vous comprenez un peu
Je
voilà.
comprends parfaitement, je comprends parfaitement.
Mais et là,
donc,
en fait,
que ouais. se passe-t-il ensuite?
Ben là, en fait, ça n'a fait que ça n'a fait que renforcer ma colère, en fait. Je me suis dit, mais en fait, non, mais il me prend pour une idiote. En fait, il avait anticipé son coup. Il était il était là à 5 minutes de chez moi. Et donc là, quand je vois qu'il arrive, alors en fait, on va se croiser. C'est-à-dire que j'ai eu le temps de mettre mes filles dans ma voiture, et lui, quand il essaye de retenir la portière passagère. Pour attraper le cosy avec mon bébé. À ce moment-là, j'ai les yeux qui font des mitraillettes. Hein. Je dis, vous lâchez cette porte. Et là, il dit à la puéricultrice qui est avec lui, en complice, il lui dit, ah, mais c'est pas grave, je vais appeler les gendarmes qui vont arriver. Et là, je m'en vais avec mes filles. Et puis, je vais croiser les gendarmes à la sortie de chez moi.
Oui.
Donc, ça se joue à une minute près, même pas, 30 secondes près. Et là, je prends la direction pour aller chercher mes fils qui se trouvent dans le centre aéré pour les récupérer.
Oui, oui.
Et ensuite, je prends la direction de l'Espagne. On est tous les 5 dans la voiture, on est heureux. Pourquoi l'Espagne? Parce que c'est le pays le plus proche de chez moi.
Oui, c'est là où, en plus, vous avez conçu les petits, en plus.
C'est ça. C'est un pays de cœur, en fait.
Oui, puis l'Espagne, c'est aller à l'étranger et normalement, vous protéger de ce qui se passe là sur le moment. Hein. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je ne juge pas. Mais en tout cas, pour vous, dans votre tête, c'est je vais pouvoir aller en Espagne, me poser et réfléchir à tout ça. Vous êtes là, Magali? Ah, on a été coupé. Je n'entends plus Magali. Vous me dites en régie si nous l'avons. On va récupérer Magali tout de suite, hein. On va pas écouter de la musique. Je pense que le temps que Florian recompose le numéro, et je vais vous dire tout de suite si Magali est bien là. En tout cas, voilà, Magali décide de partir en Espagne avec ses 4 enfants. C'est une décision. Vous êtes là, Magali?
Oui, je suis là.
D'accord, je vous entendais plus. Cette décision que vous prenez. Elle est lourde, vous savez qu'elle peut être lourde de conséquences ou...
Oui.
Oui, vous le savez sur le coup. Ou est-ce que vous la prenez, ouais. C'est un peu sauf qui peut, la maman qui se refuse à ce qu'on lui enlève son bébé, hein, sa petite fille,
ouais.
Et, et qui, c'est un peu une décision de coup de tête. Est-ce que c'est plus un coup de tête ou est-ce que vous vous dites, je sais que je risque quelque chose. Est-ce que vous savez que vous risquez quelque chose?
Alors en fait là, il n'y a plus rien qui passe dans la tête. C'est je dois sauver mon bébé. Je suis comme une lionne qui doit sauver ses petits en fait. c'est, je sens le danger. Je sens le danger puisqu'en fait, je me dis, cet enfant ne doit pas être placé. Il y a les preuves qu'elle ne doit pas l'être. Donc, s'il y a des gens qui veulent quand même la placer, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans leur tête, en fait. Et je me dis, elle est en danger. C'est pas normal. Cette situation n'est pas normale. Donc, je vais m'échapper d'une situation qui est anormal et je vais protéger mon bébé parce que voilà, je me dis que des gens comme ça, je ne vois pas, ils sont capables de quoi encore. Et je réagis en lionne, en fait, je réagis en lionne qui va protéger ses bébés, qui va protéger ses petits. C'est une espèce de sauf qui peut, c'est une espèce de
vous voyez, avez une réaction de merlouve, en fait.
Ah, mais carrément. Mais carrément ça, c'est faut pas toucher à mes bébés, faut pas toucher à mes petits.
Donc, arrivé en Espagne, voilà. Qu'est-ce que faites-vous ? Vous allez dans un hôtel, vous prenez une chambre, que faites-vous ?
Alors, arrivé en Espagne, en fait, donc le 24 juillet 2019, sur la route, donc c'est l'après-midi, hein, donc on se détend, on commence à se détendre à l'approche de l'Espagne et je discute avec mes garçons qui est aîné et je leur explique que effectivement là on est en fuite en fait et que on risque de se faire attraper. Je leur explique que c'est peut-être que le fait d'être passé en Espagne, ça suffira à nous protéger, mais je n'en suis pas convaincue, je n'en suis pas sûre et que on peut à tout moment être arrêté. Ça je l'explique à mes fils aînés de 6 ans. Voilà. Après, les filles de 3 ans et 1 an, évidemment, elles ne comprennent pas tout. Hein, ça, c'est clair. En tout cas, ce qu'on passe, on passe deux jours merveilleux à découvrir le vrai gazpacho, à être pour la première fois à l'étranger avec mes enfants. Et c'est vraiment deux jours qu'on va savourer sans en perdre une miette, en fait, parce qu'on sait que ça peut se terminer. Et ce qui se passe, c'est que... en fait, je sais qu'on est facilement traçable. Hein. J'en ai conscience parce que je paye tout en carte bleue. J'ai pas mis d'argent de côté. J'ai pas eu le temps, en fait, de m'organiser. Quelque part, c'est quelque chose qui c'est pas une fuite organisée, tout ça. Hein. Et ce qui va se passer, c'est que les autorités, en fait, elles seront chargées de nous retrouver puisque ce que je vais comprendre, c'est qu'il y aura un mandat d'arrêt international qui sera lancé à notre encontre par l'ASE.
D'accord.
Donc, et ça, je vous en prie.
Mais non, mais donc là, c'est comme... c'est enlèvement, c'est alerte enlèvement enfant, en fait, en gros. C'est l'équivalent.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, l'ASE va lancer un mandat d'arrêt à mon encontre pour avoir soustrait mon enfant aux mains de ceux qui devaient en avoir la garde. C'est comme ça qu'ils ont jugé puisque j'ai été jugée. Hein,
bah c'est votre jugée. Délit, votre délit.
Oui, mon délit, c'est délit, ça, merci.
C'est un délit.
C'est un délit, oui, c'est ça. Mmh. C'est, j'ai
enlèvement,
été,
enlèvement d'enfant.
Voilà comment va considérer l'ASE.
Oui,
il considère que je soustrais mon enfant aux mains de ceux qui devaient en avoir la garde, c'est-à-dire eux. Donc, enlève, soustraction d'enfant. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, je m'aperçois effectivement que lors d'une pause dans une station essence, il y a la Guardia Civile qui s'y trouve. Je sais pas, il y a une intuition. Il y a une intuition que c'est peut-être pour moi, je sais pas. On poursuit notre route vers la frontière portugaise. Et ce qui va se passer, c'est qu'en cours de route, on s'arrête dans un village espagnol très joli. Et à ce moment-là, il y a un policier de la Guardia Civile qui s'approche de nous. Il me dit en espagnol, est-ce que vous êtes une maman solo avec 4 enfants ? Avez-vous votre permis ? Et mes fils et moi, enfin tout le monde, on se regarde. Mes fils ont compris en fait. Ils tremblent et je vais dire oui. Et là, ils contrôlent mon identité, mon permis de conduire. Et ce qui va se passer, c'est que y a un silence. Et là, ils me relâchent en fait.
Ils nous laissent partir.
Ah oui, ils nous laissent partir. Alors là, quelque part, on a compris, enfin surtout mes fils aînés, hein, les filles sont trop petites, mais mes fils aînés de 6 ans, et on se regarde et on a compris qu'on a échappé au pire. Mais on sait qu'en fait, on a l'intuition qu'on est recherché, en fait. Voilà, tout simplement. Hein.
Vous étiez, oui, vous étiez recherché de toute façon. Vous étiez recherché.
Mais
non, c'est malheureusement le comportement d'une mère louve, le comportement que beaucoup de mamans ce soir qui écoutent, je suppose, comprennent complètement. Malheureusement, ça va être lourd de conséquences, Magali.
Oui, ça l'a été. Effectivement. Donc, ce qui se passe ensuite, c'est que j'hésite en fait à passer au Portugal, mais je me dis que ça ne changera rien, parce que ce soit l'Espagne ou le Portugal, ben, en fait, ça sera la police portugaise qui sera à notre poursuite. Donc, j'ai décidé de rester en Espagne avec mes enfants.
Oui.
Et je leur demande qu'est-ce que vous voulez faire, en fait, tout simplement. Je ne sais pas, je le sens intuitivement qu'il faut que... Je sens que c'est bientôt fini, mais je ne sais pas comment dire. Et mes fils me disent, nous, on veut retourner à l'ère de jeu où on était auparavant, près de la brasserie où on a été. Bon. Donc, on retourne à ce village-là. C'est un village très tranquille. C'est un vendredi soir. Et en Espagne, à 9h du soir, figurez-vous qu'il n'y a personne dans cette brasserie. Et lorsque le serveur nous voit arriver, il nous reconnaît, il nous dit ben, bienvenue, je suis contente de vous voir à nouveau. Venez vous reposer à l'intérieur. Et c'est bizarre parce qu'il est très gentil. Il est très gentil, voire trop gentil. Alors, il nous propose de sortir les sacs de couchage pour qu'on puisse dormir là. Bon, pourquoi pas, de manger quelque chose. Je lui explique qu'on a mangé, que tout va bien, on a tout ce qu'il faut. Et pourtant, il insiste. Et puis là, ben, je sais pas, je vais tomber dans le piège. Donc, on rentre dans cette brasserie qui est vide ce vendredi à 9h en Espagne. Et il n'y a que deux ou trois serveurs. C'est bizarre. J'ai l'impression d'être dans un film, en fait.
Ouais.
Et c'est là, le serveur, il est tellement gentil avec mes enfants. Il leur donne un paquet de chips dans la voiture pour les inciter à sortir de la voiture. Ensuite, quand on va arriver dans le café avec les sacs de couchage plus les doudous, il va distribuer des petits gâteaux, des petits sablés sur une petite assiette en porcelaine à mes enfants. Mmh. Il va leur servir une boisson chaude, non, une froide, puisqu'on était au mois de juillet. Mais enfin, il est vraiment à leurs petits soins et je trouve qu'il en fait trop, en fait. Et pour moi, c'est pas normal. Et je vais comprendre, en fait, je vais comprendre rapidement parce que quelques minutes plus tard, donc mes trois aînés, enfin, j'ai trois de mes enfants qui se sont endormis sur les sacs de couchage avec leur doudou. Et cet homme-là me dit, vous repartirez après, hein, voilà, vous irez faire, vous continuerez votre route. Il me dit, ben, je dis oui, c'est mon intention, de toute façon, c'est mon intention. Et ce qui se passe, c'est que y a un de mes fils qui ne veut pas dormir, qui reste avec moi parce qu'il n'est pas tranquille. Et il a raison, parce que là, on va regarder la fenêtre. Il est 3h du matin et dans la nuit noire, on voit trois voitures de police qui sont garées le long du trottoir de la brasserie. Et mon fils me regarde et il tremble. Et en fait, on a compris. Et on a compris que c'est la fin, en fait. Donc, je prends mon fils dans les bras, j'essaye de le rassurer. Et là, on attend, en fait. On attend parce qu'on sait que c'est fini. Et là, la Guardia Civile, les trois policiers de la Guardia Civile rentrent dans la brasserie. Et puis, c'est là où, comment dire... Alors, ils ont de la diplomatie, hein, voilà. Alors, je ne sais pas si en France, ça se serait passé aussi bien. Je ne sais pas, je ne pense pas d'ailleurs. Ils ont de la diplomatie parce qu'à aucun moment, ils pensent me mettre les menottes. Donc, ça, je leur en suis très reconnaissante. Et à aucun moment, ils font acte de violence vis-à-vis de mes enfants. Donc, je leur en suis très reconnaissante par rapport à ça. Alors, ils essayent plutôt d'approcher mes enfants avec diplomatie, en s'amusant avec eux, vous voyez. Bon.
Oui, oui.
Et puis, mes fils de 6 ans tombent dans le panneau. Ils s'amusent un peu avec eux, aux gendarmes. Enfin, voilà, quoi. Je crois qu'en fait, ils sont un peu dans le déni. Ils sentent intuitivement qu'ils savent quelque part qu'il y a des policiers qui sont là. Je pense qu'ils ne veulent pas comprendre, en fait. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut attendre 1 heure ou 2 heures dans le café parce que figurez-vous que les trois voitures sont à ce moment-là en correspondance avec la France à la radio. Et ils attendent finalement une décision de la France pour nous, pour aller plus loin.
D'accord.
Bah, c'est d'ailleurs pour ça, en fait, vous savez, quand je vous avais parlé du policier de la Guardia Civile qui avait contrôlé mon identité la veille,
oui, oui.
Pourquoi ils ne nous avaient pas arrêtés? Je pense qu'en fait, ils n'avaient pas eu encore d'autorisation par la France. Donc là, on va attendre 2 heures ou 3 heures que les correspondances entre la France et l'Espagne se fassent.
Ouais.
Voilà. Comment ?
Fonctionne.
Oui, effectivement, que la France décide de quelque chose, que l'Espagne entende les directives et voilà, et agisse. Et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est que mes deux filles seront dans une voiture. On va amener mes deux garçons dans une autre voiture. Ils me diront qu'on va prendre la route pour aller dormir dans un lieu plus propice, tous ensemble. Voilà un petit peu comment ils enrobent, un peu le truc. Au début, on y croit, mais en fait, très très rapidement, on ouvre les yeux. Et puis, alors derrière les deux voitures, ils me disent de suivre ces deux premières voitures, et derrière moi. Il va y avoir une troisième voiture de la Guardia Civile qui va m'encadrer, en fait. Et on se dirige vers un premier centre de détention pour enfants, en fait, devant lequel on reste un moment. Et un policier de la Guardia Civile me dit gentiment que j'ai le droit de m'asseoir à côté d'un de mes fils qui refuse de dormir, contrairement à ses frères et sœurs.
Mm-hmm.
Donc je peux faire un dernier câlin à mon fils. Et il s'avère que ce centre-là, alors quand on arrive devant, c'est une vraie prison. C'est un mur qui fait, je ne sais pas, moi, 20 mètres, 30 mètres de haut. Vous voyez, Olivier, les prisons, ben les prisons, hein, les prisons pour adultes, en fait. Hein. Ben en fait, là, je me retrouve, il est 3 heures du matin, et là, on est devant cette espèce de... On a l'impression que c'est une prison. C'est un mur bétonné qui fait 30 mètres de haut. Enfin, il manque plus que... Je me demande s'il n'y a pas le barbelé en haut.
Ce qui est fou, c'est que je suis en train de me dire que tous ces moyens déployés pour une mère qui fuit avec ses 4 enfants, alors qu'on voit des trucs tous les jours où on ne déploie pas autant d'énergie et de force policière, hein, pour
ouais.
des délits qui me semblent
c'est ça.
Beaucoup plus graves. Vous allez donc vos enfants vont dormir dans ce foyer, hein, c'est ça, en Espagne.
Alors, finalement, ce foyer va nous dire que c'est pour les 7 ans, 14 ans. Et donc, comme mes enfants ont 1 an, 3 ans et 2 fois 6 ans, eh bien, ils sont trop petits pour aller dans ce foyer de 7, 14 ans. Donc, on va nous amener vers un foyer pour les 0, 6 ans. Ensuite, arrivé dans ce parking, un travailleur social de ce foyer de 0-6 ans va sortir et il va me dire en espagnol, en me faisant le signe du bras, il va me dire « maintenant c'est terminé, ce n'est plus possible. No es posible. » Donc, ça veut dire…
On vous sépare de vos
ça
enfants.
Veut dire, comment
on vous sépare
ça veut dire
de
que
vos
là,
enfants.
C'est la, ouais. C'est ça. C'est-à-dire que là, c'est la séparation de mes enfants.
Bon, ouais.
Et pourtant, on va continuer à m'endormir pour ménager la séparation, pour essayer que tout se passe pour le mieux au niveau de la séparation. On va me dire, Si vous voulez, demain matin, vous pourrez peut-être donner le biberon à votre bébé. Vous allez vous mettre dans la rue à côté. Vous allez dormir dans votre voiture. Et puis, sous les coups de 10h ou 11h, quelqu'un viendra à votre rencontre. Vous cherchez pour que vous puissiez donner le biberon à votre bébé. Et ensuite, vous serez tous rapatriés en France. Voilà un petit peu comment on nous endort, en fait. Et moi, j'y crois, en fait. Parce que je crois qu'en fait, dans ces moments-là, je crois qu'on est obligé d'y croire, en fait. C'est bête à dire, mais on est dans une espèce.
Au bout du compte, vous allez être rapatrié en France et vos enfants vont être dispatchés dans 3 familles d'accueil.
Oui, c'est ça.
Et ça fait 4 ans qu'ils sont placés.
Oui.
Rien.
C'est ça.
Rien n'a bougé depuis 4 ans. Vous avez été condamné, en fait. Vous me disiez tout à l'heure, vous me parliez de délit. Vous avez été condamné.
Alors, j'ai eu un rappel à la loi, un simple rappel à la loi.
Oui.
Du procureur, du substitut du procureur, en fait. Donc, je sais que j'aurais pu passer en correctionnel, j'aurais pu avoir une garde à vue, etc. Donc, je m'en suis sortie assez bien, au final. Un simple rappel à la loi, mais voilà, ça n'a pas suffi à récupérer un petit peu ma fuite qui est mise à toutes les sauces et constamment par la justice et par l'ASE qui s'en servent. Pour eux, c'est tout bénéfique, hein, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que...
Étonnant dans votre histoire, c'est que les 3 autres enfants ont été placés et que depuis 4 ans, rien n'a bougé. Comment on justifie le fait que vos enfants soient restés placés? On aurait pu vous sanctionner pour le comportement jugé par irresponsable par les autorités en France.
La fuite, vous voulez dire?
Non, mais votre fuite, qui a sûrement été, vous savez, jugée du point de vue de la justice en France.
Oui.
Comme
soustraction
à la loi et soustraction
d'enfant. Pour avoir kidnappé mon bébé, oui.
Donc du coup, mais 4 ans, qu'est-ce qui justifie que vos enfants soient encore placés 4 ans après?
Aujourd'hui, c'est la quatrième. Enfin, aujourd'hui, on rentre dans la quatrième année puisque le mois de juillet est passé, voilà. Et alors, il y a eu des évolutions. Comment expliquer? Donc en fait, pour reprendre votre point là, c'est-à-dire que au bout de mes enfants sont restés dans ce foyer pendant 5 jours. Je tiens à préciser sans aucun interprète, ça ne parlait qu'espagnol autour d'eux. Ensuite, l'ASE a été les chercher en minibus pour les rapatrier en France et les dispatcher dans 3 familles d'accueil. Donc, les jumeaux sont ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que mes fils ont manifesté très, très rapidement des signes de mal-être. Donc, un des deux, par exemple, a commencé à monter sur le toit d'un cabanon. Faire des mises en danger, et l'éducatrice m'a téléphoné un jour pour me demander si... Enfin, c'est du foutage un petit peu, excusez-moi l'expression, mais c'est du foutage de gueule, parce qu'elle m'a téléphoné pour me dire « Est-ce que votre fils faisait ça chez vous? Est-ce que vos fils se mettaient en danger? Est-ce que ça leur est déjà arrivé de monter sur un toit de cabanon chez vous ?»« Non, madame, je lui ai répondu. En fin de compte, mes enfants avaient tellement subi de violence dans ce foyer espagnol qu'ils en étaient rendus violents, alors que c'était des enfants adorables auparavant. » Après, voilà, il faisait aussi des violences vis-à-vis des sœurs. J'ai pas tout su, mais voilà, j'ai su les grandes lignes. J'ai su qu'un de mes fils avait torturé le chien de la famille d'accueil. Ça, c'est important d'en parler aussi, Olivier, parce que ça, c'est...
Ça a déstabilisé vos enfants, c'est certain. C'est certain que ça a déstabilisé.
Oui, c'est ça. Il faut montrer un petit peu l'escalade du truc. C'est que de quatre enfants qui n'ont aucun problème, qui n'ont jamais été voir un psy, qui vont pour le mieux, qui font du sport, pour qui tout va bien, qui sont équilibrés, aimés, voilà, il y a tout qui va bien, sauf la maison qui est en désordre, sauf le bébé qui est tendu, et finalement, on en arrive à des enfants qui tombent dans la violence, en fait. Et ça, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Et alors, donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, alors, il y en a eu des évolutions. Il y en a eu des évolutions, mais la première année, en fait, j'ai été beaucoup dans la défense de mes droits, en fait, puisque, par exemple, l'ASE se permettait de signer à ma place, par exemple, les papiers de classe. Donc, j'étais beaucoup dans le fait de me défendre et de leur pointer un peu le viol des lois qui me faisaient, en fait, hein, tout simplement. Alors, évidemment, ça ne leur a pas plu. Et la première année, c'était un peu ça. La deuxième année, je me suis dit, tu vas faire le paillasson, tout simplement. Et je disais amen à tout ce qu'il disait, en fait, hein, tout ce qu'il faisait. Alors, les conseils, il me donnait des conseils. Hein, je suivais. Tout ce qu'il me demandait de faire, je suivais à l'œil et...
Oui, au doigt et à l'œil.
Oui, merci, c'est ça. Je suivais au doigt et à l'œil, en fait. Et je me disais, mais ça va s'améliorer, puisqu'il voit que je donne de que je suis de bonne volonté, en fait. Et en fait, pas du tout, pas du tout. En fait, ce que je comprenais, c'est que ça ne me suffisait pas, parce qu'il n'y avait jamais rien qui leur suffisait. C'est-à-dire, j'avais l'impression que je pouvais être parfaite, que ça n'aurait jamais été suffisant, vous voyez ?
Je vois.
Et quand je suis rentrée en France, à la gendarmerie, j'ai eu le droit quand même, à un fichage. Hein, profil droit, profil gauche, comme dans les films hollywoodiens, les thrillers, enfin, profil gauche, profil droit, les empreintes à chaque doigt. J'ai été fichée, en fait. J'étais une terroriste, de toute manière.
Une délinquante.
Oui, Olivier, une délinquante.
Oui.
Ça, voilà. Pendant
c'est,
six mois...
C'est, j'ai envie de dire que malheureusement... Pour toutes les mamans qui peuvent un jour être confrontées à des situations comme ça, critiques avec leurs enfants, votre aventure, hein, puisque Julien nous dit c'est un vrai film, cette histoire, c'est fou, mais on voit qu'il nous faut, c'est le conseil que je donne à chaque fois aux parents, éviter de se soustraire aux décisions des services sociaux, même si elles sont, elles paraissent complètement... injuste, folle. On peut, du point de vue des parents, on peut les qualifier de beaucoup de choses. Mais il est certain que s'y opposer et ne pas s'y soustraire va entraîner un schéma qui sera compliqué à détricoter. Vous voyez, ça veut dire qu'on part pour une décision qui va durer au moins un an et qui voire plus. Dans la majeure partie des cas. Donc, il nous reste 2 minutes, Magali.
Ah, d'accord.
Ça fait déjà 45 minutes que nous sommes ensemble. Même une heure, vous voyez, Florent me dit, le temps passe vite. Où en êtes-vous aujourd'hui et qu'espérez-vous, qu'attendez-vous, là, dans les mois qui viennent ?
Alors, où j'en suis aujourd'hui, c'est que...
Valérie nous demande au 3921 ce que vous faites comme métier. Vous travaillez, vous avez une activité ?
Alors, moi, je suis dans le développement personnel. Je suis voyante et médium, et dans l'hypnose aussi. Et ça, évidemment, quand vous dites médiumnité à l'aveu, ça ne plaît pas du tout.
Coincer un peu.
Ah oui, oui, tout à fait. Donc, où j'en
alors
suis
que je rappelle qu'on va sur TikTok aujourd'hui, par exemple, le réseau social, merci Florian.
Oui.
Sur TikTok, on voit plein de gens qui tirent les cartes, le truc de médium.
Ah oui,
c'est une activité aujourd'hui qui marche à fond et qui paraît ne choquer personne. Donc je le précise parce que j'en suis même moi le premier étonné. Il y a vraiment une multitude de personnes qui en font leur activité. Donc, on peut croire que c'est rentré dans les us et coutumes, même si je n'y adhère pas particulièrement, mais C'est rentré dans les yeux et coutumes des Français.
Oui, mais pourtant, vous voyez, Olivier, c'est que non, c'est-à-dire que vraiment le parent, tout est bon pour le pointer du doigt et la moindre particularité est faite pour servir de prétexte au placement en fait et au non retour des enfants. Enfin, c'est vraiment ça que j'ai compris au fur et à mesure des années en fait, parce que je vous dis la deuxième année j'étais prête j'ai fait tous les efforts qu'ils me demandaient, j'ai fait tous les efforts et en fait ça leur suffisait jamais en fait, voilà. Donc au final on se rend compte qu'on est dans un truc qui avec des gens de mauvaise foi en fait qui sont là pour retenir nos enfants et qui n'ont aucune envie de nous les rendre en fait. Voilà, c'est un business, il faut le dire, Olivier. Il faut que les gens ouvrent les yeux là-dessus. Et c'est pour ça, ce soir, que je voulais prendre la parole. C'est que les gens, ils réalisent que, oui, d'accord, il y a des placements qui sont OK, justifiés, mais 50 à 70% des placements ne le sont pas. Et Pierre Nave, ancien
inspecteur... Ça, ces chiffres-là n'engagent que vous, hein, Magali.
Alors, ça n'engage pas que moi. C'est de la bouche de Pierre Nave, ancien inspecteur des affaires sanitaires et sociales, qui l'a dit face caméra. Hein, donc, vous pouvez taper Pierre Nave sur Internet, vous verrez sa vidéo YouTube, qui dit lui-même dit que 50% à 70% des placements sont abusifs. Donc, il le reconnaît, mais qu'est-ce qui est fait derrière? En fait, c'est ça la question. En fait, rien n'est fait pour l'instant. Mmh. Alors, pour finir, ce que je voudrais dire, c'est que moi, ils m'ont stoppé mes appels médiatisés avec mes garçons, par exemple, de façon très arbitraire. Quand j'ai posé la question à l'assistante sociale, pourquoi, elle m'a répondu, bien parce que en l'espace de 5 minutes, vous avez chacun de vos enfants sous haut-parleur, je le précise, soit vous posez trop de questions à vos enfants, soit il y a des blancs dans la conversation.
Bon, en tout cas, on voit que vous êtes encore en bataille avec eux. Hein, c'est compliqué encore aujourd'hui.
Vous savez, moi, je veux bien qu'on m'explique les choses, mais arrêter des appels, par exemple, en me disant soit vous posez trop de questions à vos enfants, soit il y a des blancs dans la conversation. Et c'est pour ça qu'on arrête des appels médiatisés hebdomadaires avec les enfants de madame.
Mmh. Non. Vous aurez eu, en tout cas, ce soir, le moyen et une plage pour vous expliquer, Magali, et pour livrer votre vue des choses. Et bien évidemment, on vous souhaite bon courage et plein de courage et plein de force pour réussir à dénouer cette histoire. Ne manquez pas de nous tenir au courant de l'évolution, en tout cas. D'accord ?
Je vous remercie, Olivier. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que vraiment, c'est pas normal qu'un juge refuse de se pencher sur les papiers qui sont en la faveur du parent. Parce que si on veut placer un enfant, à ce moment-là, si on veut que ce soit de façon éclairée, eh bien, il faut rester dans l'impartialité et il faut prendre en compte également les papiers qui sont en faveur du parent et qui rendent caduque le placement des enfants. Et ça, aujourd'hui, eh bien, écoutez, Olivier, ça n'est pas fait. Et j'attends vraiment que quelqu'un veuille bien se pencher sur mon dossier pour prendre en compte ces éléments-là et qui rendront libres mes enfants.
Et vous n'êtes pas la première mère ou le premier parent à appeler cette libre antenne pour redire ce que vous venez de dire, c'est que les parents se plaignent régulièrement de ne pas être considérés, même après effort, même après un travail sur eux-mêmes, même un travail sur leur situation personnelle. C'est vrai que le ressenti des parents, c'est que cette administration et la justice restent sourdes, malheureusement, à toute évolution. Merci en tout cas, Magali, pour votre appel sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Tenez-nous au courant, vraiment. Hein. C'est une invitation.
D'accord.
Et vous savez que je tiens ma parole. Donc, vous serez toujours la bienvenue sur cette antenne. Merci, Magali.
Merci.
Courage.
À vous, Olivier, de m'avoir, de m'avoir donné la parole. Et je vous tiendrai au courant. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot « nuit », suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.